nous en ayons ou non conscience, la réalité est que chacun de nous est éternellement endetté envers les autres. Nous sommes les débiteurs perpétuels d'hommes et de femmes connus et inconnus. Nous ne pouvons pas achever notre petit déjeuner sans nous être rendus dépendants de plus de la moitié du monde. Car en nous levant le matin, nous allons à la salle de bain, nous saisissons une éponge que nous procure un insulaire du Pacifique. Nous utilisons le savon fabriqué pour nous par un Français. La serviette nous vient d'un Turc ou d'un Chinois. À table, nous buvons du café fourni par un Sud-Américain, du thé par un Chinois ou du cacao par un Africain. Avant de partir à notre travail, nous sommes redevables à plus de la moitié du monde. En un sens très réel, toute vie est interrelation avec les autres. Tous les hommes sont pris dans un réseau inévitable de réciprocité, entraînés dans une destinée commune. Tout ce qui atteint directement l'un atteint tous les autres indirectement. Je ne puis être ce que je dois être sans que vous soyez ce que vous devez être. Et vous ne pouvez jamais être ce que vous devez être sans que je sois ce que je dois être. Martin Luther King, La force d'aimer. Mise en onde de Junie Limage, microphone le pasteur Jean-Fils Aimé. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bienvenue à votre émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? Comment avez-vous passé la semaine? Eh bien, mais voilà, moi je vais bien, Junie aussi. Elle me fait un petit sourire, un petit clin d'œil pour dire oui, tu as raison de dire aux auditeurs et aux auditrices que je suis bien. Eh bien, moi aussi je suis bien. Et je suis d'autant plus heureux que je suis en votre présence. Donc nous allons passer les prochaines 58 minutes ensemble. Et avez-vous prêté attention au texte de Martin Luther King Jr., hein, le pasteur King, qui a vécu jusque dans les années 60 du siècle dernier. Imaginez que ce texte est écrit dans la première moitié du 20e siècle et on ne parlait même pas encore de la globalisation, c'est-à-dire de la mondialisation avancée. Martin Luther King Jr. avait une pâle idée de ce que la mondialisation allait être par son accélération, si bien qu'aujourd'hui nous parlons d'un village global, les Européens parlent de globalisation, le fait que nous sommes interdépendants. Mais j'aime bien son texte. Il a dit, avant de partir pour le travail, rien qu'en prenant le petit déjeuner, nous avons fait la démonstration que nous sommes redevables à plus de la moitié des humains. Pensez-y. Vous vous levez, vous allez à la toilette. La toilette a sûrement été conçue et fabriquée en Chine. Votre papier de toilette vient d'où? Ma foi, d'un autre pays. Le café vient de l'Amérique du Sud. Votre pain vient... Oh, Seigneur de Dieu! Et pourtant, vous prétendez n'avoir besoin de personne. On se retrouve tout à l'heure. Allez vous faire une bonne tasse de thé, dites-moi, ou de café, et essayez de vous imaginer d'où vient ce thé et ce café. Moi, je prends mon café et je ne me pose pas la question, mais d'où vient-il ce café? Votre thé, il vient d'où? De l'Inde, peut-être? Waouh, il en a fait du chemin. Donc, voyez comment notre fonctionnement en tant que vivant nous condamne à être dépendant des autres. Donc personne, à moins que tu sois fou, personne ne peut dire « je n'ai besoin de personne ». Sommes-nous suffisamment conscients du fait que nous avons besoin les uns des autres? Arrêtons-nous pour ce fameux café, ce fameux thé, prenons le temps de relaxer, mais prenons aussi le temps de penser à cela. Quels sont... Les illustrations, elles doivent être nombreuses. Quelles sont donc les illustrations de nos interdépendances les uns des autres? À tout à l'heure. Alors revenons donc à notre texte de Martin Luther King Jr. Si vous n'avez pas encore lu ce livre-là, La force d'aimer, précipitez-vous dans une bibliothèque municipale ou à une librairie, procurez-vous donc ce livre-là. Hein. Il s'agit du pasteur King, qui s'est fait connaître dans le contexte de la lutte des Afro-Américains, la lutte des Américains noirs pour la reconnaissance de leurs droits civiques. Lui-même, après avoir flirté dans son esprit avec l'idée d'une lutte armée, a compris que c'était perdu d'avance et imitant ainsi l'hindou Gandhi, il a choisi, n'est-ce pas, de mener une lutte non armée, mais qui n'en est pas moins féroce et efficace. Et dans ce livre-là, La force d'aimer, il nous donne les arguments en faveur de son choix. Pourquoi il a choisi, n'est-ce pas, la lutte pacifique, mais une lutte déterminée, une lutte sans merci. Et comme on le sait, même s'il a été assassiné, d'ailleurs, il envisageait sérieusement son assassinat, il envisageait son meurtre, même s'il a été assassiné en 68, eh bien, toujours est-il qu'on doit à Martin Luther King la reconnaissance des droits civiques des Afro-Américains, justement, aux États-Unis. Et le soir de l'élection de Barack Obama, ce qui... Enfin, les compagnons de lutte de Martin Luther King ne pouvaient pas s'empêcher, les pasteurs Jesse Jackson entre autres, n'est-ce pas, ne pouvaient s'empêcher de repenser à Martin Luther King, car il se disait, Barack Obama, c'est, si vous voulez, le descendant spirituel, ou le produit ou le fruit, n'est-ce pas, de la lutte non armée de Martin Luther King pour... la reconnaissance des droits civiques des Afro-Américains. Donc ce beau texte-là, dans lequel il nous parle de nos interdépendances les uns des autres. Mais moi, en préparant l'émission, et justement en pensant à la question de nos interdépendances, car il faut garder ce mot au pluriel, je n'ai pas qu'une interdépendance avec toi et toi n'en as pas une seulement. Nous sommes interdépendants à plusieurs égards. Donc je disais, quand je pensais à nos interdépendances, pas vrai, je songeais à cette chanson qu'on interprétait quand on était au primaire chez les frères. Hein. Je ne vais pas la chanter, cette chanson, vous ne me le demandez pas non plus, autrement vous auriez fermé votre appareil. Mais je pensais donc à cette chanson dont je vous livre à l'instant les paroles. « Sans le paysan, aurais-tu du pain ? C'est avec le blé qu'on fait la farine. » L'homme et les enfants tous mouraient de faim si dans la vallée et sur la colline, on ne labourait et soir et matin. Sans le boulanger qui ferait la miche, sans le bûcheron roi de la forêt, sans poutre, comment est-ce qu'on ferait? La maison du pauvre et celle du riche, même notre chien n'aurait pas sa niche. Où dormirais-tu sans le maçon? C'est si bon d'avoir sa chaude maison. Où l'on est à table ensemble en famille, qui cuirait la soupe au feu qui pétille, sans le charbonnier qui fit le charbon, sans le tisserand qui ferait la toile, et sans le tailleur qui coudrait l'habit. Il ne fait pas chaud à la belle étoile, etc. Aime le soldat qui doit te défendre, aimez les métiers, le mien et les vôtres. On voit bien des sots, pas un sot métier. Et toute la terre est comme un chantier. Voyez-vous, quand j'étais au primaire, on chantait cette chanson. C'est avec le blé qu'on fait la farine. J'arrête ici, s'il vous plaît. Je ne suis pas là pour donner un cancer. Mais je vous avoue que c'est une chanson qui m'a marqué l'esprit. Très tôt, j'ai compris que que la vie humaine est un réseau d'interdépendance. On n'était pas encore à l'ère de la mondialisation avancée, à l'ère de la globalisation. On n'était pas encore conscient du fait que le monde est devenu, a toujours été, je pense, de manière diverse, mais le monde a toujours été, n'est-ce pas, un village global, parce que les humains ont toujours voyagé. Ce qu'on appelle les continents, sont des traces, ou bien laissent des traces du fait que nous avons toujours voyagé. Mais donc je disais, très jeune, j'étais conscient du fait que, même si je suis conscient de mes talents, et que mes talents ne sont pas nécessairement ceux de mon voisin, mais mon voisin a des talents que je n'ai pas et dont j'ai besoin, et lui aussi a besoin de mes talents. Et je pense que ça m'a toujours gardé d'une certaine forme d'autosuffisance. Vous savez, je n'ai besoin de personne. Napoléon Bonaparte aurait prononcé cette phrase et il l'a regretté amèrement, car dans son exil à l'île Sainte-Hélène, il a voulu boire de l'eau, il aurait demandé à une jeune fille de lui apporter de l'eau et la jeune fille lui a dit « Non, mon père m'a toujours dit que vous n'aviez besoin de personne, alors là aujourd'hui, je ne vous apporterai pas d'eau. » Donc sommes-nous conscients que seulement en nous réveillant le matin, nous accusons une dette envers plus de la moitié de l'humanité. Et c'est Martin Luther King qui écrit ça dans son livre « La force d'aimer ». J'avais lu quelque chose qui m'a fasciné. J'ai pas retrouvé ce texte. Une fois, je lisais, c'était au bon vieux temps où on pouvait encore lire les journaux sur papier. J'avais lu ce texte et je n'ai pas eu l'intelligence de le prendre en photo pour le partager avec vous. C'est quelqu'un qui tournait en dérision le racisme. L'auteur, inconnu, demandait au raciste, « Mais comment peux-tu être raciste quand ta chemise est sûrement fabriquée en Chine, tes chaussures viennent du Brésil ou du Portugal, hein, parce que ce sont des pays qui ont la réputation de fabriquer de bonnes chaussures, de bons souliers. Ta montre vient de la Suisse. Ton cacao vient de l'Afrique. Hein. Ces pays qui plantent le cacao qui sera transformé en Suisse pour nous vendre ce même chocolat, n'est-ce pas ou, en barre tendre, etc. Votre cellulaire dont vous êtes très fier, la matière première vient du sable du Sahara. Votre voiture, qui est soi-disant fabriquée au Japon, où la plupart de ces pièces, ou ces pièces, une partie de ces pièces, n'est-ce pas, sont montées au Mexique, une autre partie ailleurs, mais bon Dieu, quand tu prétends que tu es raciste, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends que sans ces autres peuples par rapport auxquels tu prétends être supérieur, tu n'aurais rien dont tu puisses te vanter? Mais c'est vrai, hein? Mais si on prenait un petit peu plus de temps pour penser à ça, je vois ma réalisatrice plongée dans une profonde réflexion. Nous ne réalisons même pas 1% de ce dont nous vantons. Regarde, j'aime lire. Le livre que je tiens là, on sait que les feuilles de papier sont fabriquées à partir, des bois d'œuvre. Mais, bon Dieu, le bûcheron qui est allé au fond des bois là, couper cet arbre là, qu'il a remis à un certain chauffeur, qu'il a conduit depuis la côte nord du Québec, je prends un exemple chez vous en Afrique, c'est ailleurs, ou, etc., qu'il a conduit depuis la côte nord jusqu'à une certaine manufacture. Et là, dans cette manufacture, ce bois va être transformé en, bon Dieu, en pâte de papier. Et cette pâte de papier va donner un certain papier qui va être vendu à un certain imprimeur, mon éditeur va acheter ce papier pour éditer le livre, et là j'ai le livre entre les mains seulement pour le papier. Il n'y aurait pas d'écrivain s'il n'y avait pas un bûcheron qui généralement n'a pas une grande éducation, si bien qu'ici, quand on dit qu'il a un langage de bûcheron, ça veut dire bon qu'il ne parle pas un langage châtié, mais sans ce bûcheron par rapport auquel nous nous estimons supérieurs, il n'y aurait tout simplement pas de livre. Bon Dieu, je me regarde là, en studio, seulement à partir de ce que je porte. Et là, sans compter ce que j'ai mangé, j'ai une dette envers toute l'humanité. Ma montre vient d'un certain pays, mes souliers viennent d'ailleurs, ma chemise vient d'ailleurs, ma brosse à dents sûrement d'un autre pays, j'aime le chocolat blanc. Il vient au moins de deux continents, de l'Afrique sûrement, et de la Suisse, qu'il a raffiné. Bon Dieu, on dirait que la nature fait tous ses efforts pour nous enseigner une leçon que nous devrions capter dès notre naissance, à savoir, on est tous dépendants les uns des autres. Dany Laferrière, qui a le sens, qui est presque un sens inné de la formule, disait des classes bourgeoises en Haïti qu'elles sont semblables à un passager qui est dans un avion, qui est en première classe et qui ne s'inquiète pas du fait qu'il y a une bombe en arrière de l'avion parce que c'est dans la classe économique. Il se dit sûrement, moi je suis en classe d'affaires, eux ils sont en classe économique, donc s'il y a une bombe, la bombe saura faire le distinguo entre moi qui suis en classe d'affaires et eux qui sont en classe économique. Mais la vérité, ce n'est pas comme ça. Quand un avion explose, ben... et tu vois, dernièrement, Junie, j'ai eu le temps d'y penser. Mais honnêtement, parfois je ris. Je me rappelle plus, je suis allé une fois donner une conférence et puis là on m'a envoyé un billet en classe d'affaires. Ah ouais donc, j'étais en classe d'affaires, mes sièges étaient plus confortables, on m'apportait le journal et il y avait de belles hôtesses, bon Dieu, avec de belles jambes et de belles lèvres. Est-ce que j'ai dit ça en plein nom? Bon d'accord, Junie, bon voilà, on se dit tout, oui j'aime voir ça. Bon, est-ce qu'on peut couper? Non, il est trop tard pour couper, mais je l'ai dit, oui mais voilà. Et là, et ces hôtesses qui me viennent, l'une me parle à gauche et l'autre en avant de moi qui m'offre le café, qui m'offre le thé. Et puis, mais voilà. À un moment donné, je me suis tourné et j'ai réalisé qu'il n'y a qu'un rideau qui sépare ce qu'on appelle classe d'affaires de la classe économique. Et bon Dieu, pour la classe d'affaires, on paye parfois jusqu'à 400-500 $ de plus, hein, dans certains cas, que celui qui est en classe économique. Mais, Junie, ce qui me fait rire, c'est que quand l'avion atterrit, nous arrivons en même temps. Mais j'ai dit, bon Dieu, mais j'ai payé 400-500 $ de plus que les autres, quasiment pour rien, parce que nous arrivons en même temps. Et quand voilà, le pilote vient de nous remercier d'avoir été gentil, tout le monde se lève en même temps. Et ce n'est pas vrai que parce que je suis en classe d'affaires, je vois la ville ou le pays avant celui qui est en classe économique. Mais j'ai dit, est-ce que j'ai payé 400-500 $ de plus juste pour avoir une hôtesse qui a de grandes jambes et qui me parle gentiment et qui m'apporte un journal et qui m'offre un repas, tandis que ce repas-là, on ne l'offre quasiment plus à la classe économique. Mais l'essence, pour l'essentiel, j'ai eu droit au même service que ceux qui sont en service, qui sont en classe économique. D'abord, on a eu le même pilote. Ensuite, on est dans le même appareil. Et trois, on faisait face au même danger potentiel, au même risque potentiel. S'il y avait une bombe, eh bien, on serait tous morts ensemble. Si l'avion avait eu des problèmes à l'atterrissage, eh bien, on serait tous confinés dans l'appareil. Finalement, pourquoi ceux qui sont en classe d'affaires s'estiment plus importants que ceux qui sont en classe économique? Ah, la vanité. Parce que il y a quelque chose chez les humains qu'on appelle la vanité. Et quand on est vaniteux, ben on perd, on perd le sens de la proportion des choses. Le véritable sens de la proportion des choses devrait me dire que je devrais me forcer à réaliser que je sois en classe économique ou en classe d'affaires, nous sommes exposés aux mêmes risques. Et là, une fois de plus, je me rappelle une autre maxime que j'avais apprise là encore au primaire. Vous savez, quand j'étais au primaire, il y avait un petit livre, un petit bijou de livre. J'ai une amie auditrice qui me promet là qu'elle va tout faire pour me le faire parvenir d'Haïti. Ça s'appelait Lecture courante. Eh bien, c'est un recueil de textes truffés de leçons morales, etc. Donc, recueil par lequel les professeurs nous apprenaient des leçons de choses, des leçons de sagesse. Et c'est justement dans le cadre de ces leçons portant sur l'interdépendance les uns des autres que j'ai appris cette phrase « Le riche et le pauvre sont égaux devant la mort ». Bon. Un riche peut faire en sorte que son corps se décompose plus lentement qu'un pauvre. Il peut faire en sorte que, en apparence, regardez, son cadavre reste intact comparé aux autres. Mais à un moment donné, vous savez quoi? Les coquerelles finissent toujours par manger et le riche et le pauvre. Et même si on retarde, si vous voulez, le processus, toujours est-il que poussière nous sommes, riches et pauvres, à la poussière nous retournerons. Poussière nous sommes, blancs et noirs, à la poussière nous retournerons, blancs et noirs. Donc, voyez-vous, il y a de ces comportements d'autosuffisance que nous affichons. Il y a de ces langages que nous utilisons parce que, bon, écoutez, j'ai fait des études, lui n'en a pas fait. Je viens d'une famille royale, lui descend, vous savez, du tiers état, hein, comme on disait en France, dans la France d'avant la Révolution. Dans certains pays, n'est-ce pas, comme l'Inde par exemple, où la société est régie ou régulée en termes de caste, on va dire, écoutez, un tel n'est pas de la classe d'une telle. Et là, on va parler de mésalliances, de mariages qui n'auraient pas dû se faire. Mais en réalité, bon Dieu, quand je me vante, de quoi je me vante? Je suis en studio, les amis, je me regarde. 99% de ce dont j'aurais pu me vanter ne vient pas de moi. Un tel d'avoir, écoutez, moi je ne me sers pas de tel parfum, je porte du parfum français. Mais justement, parce que c'est français, c'est pas toi qui l'as fait. Et même si tu es français, tu n'es pas parfumeur. Donc, même si tu étais parfumeur, tu n'es pas cordonnier. Même si tu étais cordonnier, tu n'es pas horloger. Même si tu étais horloger, tu n'es pas charpentier. Bon Dieu! La nature nous apprend l'interdépendance les uns des autres. Et non seulement des uns des autres, mais nous sommes dépendants de la nature aussi. Si la nature nous refusait l'air, on ferait quoi là? Vous voyez, quelque forte que soient nos constructions, quelque solide que soient nos maisons, eh bien, il suffit que la nature se déchaîne pour que tout notre savoir-faire disparaisse en un clin d'œil. Ouf, mon Dieu, j'oublierai jamais cette expérience, hein, l'année dernière, là. En quelques heures, un ouragan a littéralement détruit des îles comme Saint-Martin, c'est des places que je connais bien. Bon Dieu, des hôtels, une bonne partie de la Floride, il y a eu l'évacuation de près d'un million de personnes aux États-Unis qui devaient fuir la Floride. Enfin, bon Dieu, nous sommes aux États-Unis d'Amérique, ils ont le plus grand génie en matière de construction. Eh bien, quelque intelligent que nous soyons, nous ne sommes jamais plus intelligents que la nature. Donc nous sommes dépendants de la nature. Et vous savez, en Occident, il y avait cette arrogance. Lorsque les Occidentaux sont arrivés en Amérique et qu'ils ont, ou bien en Afrique, et qu'ils ont vu les Africains, par exemple, se courber devant le soleil, se courber devant la rivière, lorsqu'ils ont vu, n'est-ce pas, les Amérindiens rendre grâce à la nature certains jours, hein, c'est de là que vient la pratique du jour de l'action de grâce, pour le maïs, pour le blé, etc. Et puis les Occidentaux, dans leur arrogance, ils ont dit, mais pauvres Africains, pauvres Amérindiens, ils sont superstitieux. Comment peuvent-ils se courber devant le soleil, devant l'eau, devant la terre? Eh bien, petits crétins, leur disaient les Africains, c'est parce que nous sommes dépendants de l'eau. Nous sommes dépendants de la terre, nous sommes dépendants de l'air, nous sommes dépendants du soleil. Et là, waouh, ça nous a pris, écoutez bien, plus d'une dizaine de siècles pour réaliser qu'ils avaient raison. Parce qu'avant, on les traitait de superstitieux, on les taxait de superstition et de sorcellerie, parce qu'ils versaient de l'eau, n'est-ce pas, par terre, en reconnaissance justement à la terre, parce que certains jours, ils vénéraient les morts. Hein, on dit, mais c'est quoi ça? Ils vénèrent les ancêtres. Eh bien, c'est parce que, bon Dieu, Junie, est-ce que tu t'es regardé au miroir pour réaliser que plus tu vieillis, plus tu ressembles à telle tante, telle mère? Bon Dieu, quand je me regarde au miroir, parfois je me vois marcher, mais j'ai dit, c'est mon père. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il me fait, mon père? Il me semble qu'il est mort. On dirait qu'il revient en moi. Mais c'est ça. C'est ça la génétique. C'est que même pour notre démarche, notre façon de parler, notre timbre de voix, nos gestes, etc., pour lesquels les gens nous applaudissent parfois, eh bien, cela ne vient même pas de nous. Nous l'avons hérité. Morale de l'histoire, là, avant de nous arrêter et de clore cette première partie, avant de te vanter de quoi que ce soit, es-tu sûr que ce dont tu vas te vanter, c'est toi qui en as le mérite? Que serait cette émission s'il n'y avait personne qui m'écoutait? Je serais un fou. Et Junie n'accepterait pas de collaborer avec un fou. Bon, même si de temps en temps, Lydie Mgema Dichon. Mais enfin, ça c'est autre chose. Mais bon Dieu, vous réalisez que je dépends de vous pour faire cette émission? Vous ne me connaissez peut-être pas. Enfin, je ne vous connais pas. Je ne connais pas la plupart de mes auditeurs. Je serais fou de dire que je vous connais. Mais je me tiens derrière un micro et je dis, il y a sûrement des gens qui m'écoutent. Si c'est vrai que vous écoutez, appelez-moi donc. Autrement, on va dire que je suis fou. Mais vous comprenez comment? Que serait une salle de classe sans les élèves? Je vais partager avec vous une petite anecdote. J'étais aumônier et des forces armées canadiennes. Enfin, j'ai travaillé d'abord comme instructeur civil pendant longtemps et ensuite je suis devenu aumônier. Et vous savez, dans l'armée, il y a une hiérarchie. Moi, j'avais une formation de capitaine, etc. Les sous-officiers devaient me saluer, mais moi, je devais saluer un colonel, etc. Une fois, écoutez bien, je n'oublierai jamais ça. Vous savez, quand vous êtes aumônier, vous jouissez du respect et de vos supérieurs et de vos subalternes. Et il y avait une fois un certain colonel à qui on voulait faire passer un sale quart d'heure, écoutez bien, parce qu'il était chiant. Et on dit, ok, on va le prendre à son propre jeu. Il est trop imbu de sa supériorité, il est colonel, on va le rendre malade parce qu'il est colonel. Vous savez ce qu'ils ont fait? Une longue file de soldats, d'officiers et de sous-officiers se sont mis à passer devant lui et à le saluer. Quand quelqu'un te salue, tu dois le saluer aussi. Bon Dieu! J'ai l'impression qu'à un moment donné, il a regretté d'être colonel parce que, puisqu'il était colonel, il devait nous rendre le salut. C'est vrai que c'est nous qui devons le saluer, le premier, mais lui, il devait nous le rendre. Bon Dieu, à un moment donné, pauvre lui, il a eu mal. On peut être tellement chiant. Aïe, aïe, aïe. Mais quand on se vante là, et j'ai un ami auditeur qui est encore dans les forces armées avec qui je suis entré, qui est tellement avancé, hein. Quelqu'un qui est dans le corps de génie dans les forces armées canadiennes, et il doit pouffer de rire parce qu'il se souvient de cette anecdote-là. Mais quand on se vante, ce dont on se vante, sommes-nous sûrs que nous en avons entièrement les mérites? Sommes-nous sûrs que nous en avons entièrement les mérites? Vous dites, ah oui, mais je l'ai acheté de mon argent. Fine. Good. Vous l'avez acheté de votre argent. Mais vous ne l'avez pas fait. Et si on refusait de vous le vendre, vous auriez votre argent, mais vous ne l'auriez pas, cette affaire-là. OK? Soyons un peu moins autosuffisants. C'est Jean de La Fontaine qui nous dit qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Malheureusement, on s'imagine, encore une fois, et à tort, on s'imagine qu'on a souvent besoin d'un plus grand que soi. Et c'est pour cela qu'on ménage nos supérieurs. On fait attention à nos patrons, on fait attention à ceux qui sont élevés en dignité. On dit, ah, mais on aura besoin d'eux, peut-être. Mais, oh là là, vous savez qu'il y a des bonnes, des servantes là, qui peuvent détruire votre couple, hein, et qui ont déjà détruit votre couple seulement par leur absence. Vous voulez jouer votre rôle de grande dame, de première dame, fine. Un beau matin, un samedi, tandis que vous vous apprêtez à recevoir du grand monde chez vous, moi j'ai déjà vu ça. Et puis la servante dit, madame, je vais quitter, oui. Ah, dans un créole délicieux. Je vais quitter. Comment ça tu vas quitter? Tu peux pas attendre 2 jours, non madame, parce que j'ai une vieille tante qui est très malade. On me fait dire que je dois rentrer ce soir même. La servante quitte le soir même et vous, madame, la première dame, vous êtes foutue parce que vous êtes première dame. Mais cette bonne soupe, ce bon riz-là, cette bonne viande pour laquelle on vous a tellement félicité, vous et moi savons que ça ne vient pas de toi. Et la servante, à force d'avoir été humiliée par votre arrogance, par votre morgue, elle dit « Ok, on va lui donner un petit goût de l'évangile. Je pars. » À la veille de votre réception. Et là, j'en connais des premières dames qui se mettent à genoux, qui pleurent. Il y a des premières dames qui cachent à leur mari que la nourriture ne vient pas de la servante. Et là, quand la servante part, il n'y a plus de nourriture. Et le mari découvre. Oh, vous savez, dans ces sociétés très hiérarchisées où monsieur lit son journal et ne fout rien. Et voilà. Donc, tout ceci pour dire qu'on est dépendant les uns des autres. On a besoin du bûcheron, on a besoin du boulanger, on a besoin du paysan. Hein? Vous savez qu'en Haïti, autrefois, on obligeait, quand le paysan venait de mettre un enfant au monde, on inscrivait dans l'acte de naissance de son fils qu'il est paysan. Donc, bon Dieu, tu imagines, quand le fils du paysan entrait dans une école prestigieuse en ville, au Cap, au Gonaïve, à Port-au-Prince, etc. Dans son acte de naissance, on inscrivait qu'il était paysan. C'était humiliant, hein, dans ce pays bourré de complexes. Et souvent, on avait des airs de supériorité par rapport à eux. Et bien, l'intelligence. L'intelligence n'est pas exclusive à certaines origines ni à certaines races. L'intelligence, c'est partout. Donc, reconnaissons nos dépendances les uns des autres. On s'arrête ici, les amis, un petit peu de musique. Au retour de la pause, nous allons continuer notre série sur la question suivante. Est-ce que l'oppresseur et l'opprimé peuvent servir le même Dieu ou adhérer à la même religion? Ça va? Et je vais vous apporter d'autres exemples pour illustrer le fait que c'est insolite que le maître et l'esclave, que l'opprimé et l'oppresseur adhèrent à la même religion, aux mêmes croyances ou servent le même Dieu. À tout à l'heure. Alors, poursuivons notre série, à savoir l'opprimé et l'oppresseur, peuvent-ils servir le même Dieu ou peuvent-ils adhérer aux mêmes croyances ou à la même religion? Pour vous prouver la pertinence de ma question, je vais vous livrer lecture d'un texte biblique à partir duquel je vais vous poser un certain nombre de questions. Donc, Je vais donc vous conduire à la Bible. Hein. La semaine dernière, nous en étions dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, je vais vous conduire à l'Ancien Testament. Nous allons dans Genèse chapitre 16, n'est-ce pas? Et à partir du verset 9, et je vais vous lire, n'est-ce pas, l'histoire d'Agar. Genèse chapitre 16. Je vais donc vous lire l'histoire d'Agar. Alors, Agar, c'est le nom de l'aïeul des Arabes. Hein? C'est-à-dire, Agar, c'est la maîtresse d'Abraham. La femme d'Abraham étant Sarah, et Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. À un moment donné, selon la coutume de ce temps-là, Sarah a dit à Abraham, son mari, « Regardez, nous avons une servante du nom d'Agar qui, elle, est féconde, qui peut avoir des enfants. Eh bien, va coucher avec elle et que par elle, je puisse avoir des enfants. » Et là, à un moment donné, vous connaissez la nature humaine. Lorsque Agar est tombée enceinte, n'est-ce pas, elle a commencé à avoir du mépris pour Sarah. Et le texte nous dit que Sarah maltraitait Agar. Et malgré le fait qu'Agar, n'est-ce pas, était enceinte, et Agar a pris la fuite. Et Dieu va intervenir pour parler à Agar et pour dire à Agar de retourner chez sa servante et de s'humilier sous la main de sa servante Sarah. C'est pas pour rien que je commence à vous raconter l'histoire, parce que le temps nous faisant défaut, je vais vous lire précisément à partir du verset 7. Donc, Agar prend la fuite, c'est normal, parce que sa maîtresse la maltraitait, elle qui porte un enfant. L'ange de l'Éternel, qui est l'Éternel lui-même, au verset 7, vient à la rencontre d'Agar. Genèse chapitre 16, verset 7. L'ange de l'Éternel trouva Agar près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit à Agar, servante de Sarai. Vous notez comment l'ange appelle Agar, servante de Sarai. Donc, l'ange de l'Éternel décrit Agar dans son rapport de sujétion à Sarai. Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Agar répondit à l'Éternel, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, écoutez la promesse de l'ange de l'Éternel, je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte, tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ishmaël. Ishmaël, c'est le lointain ancêtre des Arabes. Hein? Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Effectivement, Ishmaël en hébreu, il y a le verbe shema qui signifie écouter et elle qui signifie Dieu. Donc Dieu a écouté. Donc, car l'Éternel a entendu ton affliction, verset 12. Cet enfant Ishmaël sera, écoutez bien, comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. Notez bien cela. L'Éternel dit à Agar, tu vas donner naissance à un enfant, tu l'appelleras Ishmaël. Il sera comme un âne sauvage. La main de tous sera contre lui et il sera contre tous. Bon, on vient de lire un texte qui, en apparence, est neutre. Et puis là, les gens prêchent dessus. Et puis ils disent, écoutez, quel Dieu! Dieu vient à la rencontre de Agar, d'ailleurs, qu'il traite de servante de Sarai. C'est comme si l'identité d'Agar se réduit à ça. Et tout ce que Dieu trouve à dire à Agar, c'est que tu vas avoir de nombreux enfants, mais ils seront comme des ânes sauvages, ce qui en soi n'est pas quelque chose de glorieux. La main de tous sera contre eux et ils seront contre tous. Alors, vous pensez que c'est un texte neutre? Écoutez-moi bien. En théologie, d'abord, en littérature, il y a une technique de lecture qu'on appelle une lecture post-coloniale. Dans post-colonial, vous voyez deux mots. Vous voyez le mot post qui signifie après et colonial qui réfère, n'est-ce pas, à la période de la colonisation. Vous savez que, en gros, la colonisation de l'Afrique, en théorie, a pris fin dans les années 60. Les intellectuels africains et plus tard les intellectuels américains, avant les intellectuels français, ont découvert que les textes en général, mais en particulier les textes religieux, ont été les outils dont on s'est servi pour maintenir les gens dans la soumission, dans l'abaissement, dans l'humiliation. On s'est toujours servi de ces textes-là pour leur apprendre à être de bons sauvages. Hein. C'est ce que, par exemple, Jean-Jacques Rousseau nous apprend. D'ailleurs, c'est même le titre de l'une de ses œuvres, n'est-ce pas, où il parle de bons sauvages, etc. Et là, à partir des années 60, des intellectuels se sont dit, puisqu'on s'est servi de ces textes-là pour nous coloniser, pour nous maintenir dans la colonisation, il nous faut développer une méthode de lecture post-colonial. C'est-à-dire, nous devons, écoutez-moi bien ce qu'on entend par technique de lecture post-coloniale, quand on lit un texte en général, et plus tard à compter des années 80, ces techniques de lecture vont entrer dans la théologie, donc quand on lit un texte religieux, nous devons faire attention, écoutez-moi bien, aux structures de domination et de pouvoir qu'on retrouve dans les textes religieux, car ces textes-là n'ont pas été écrits pour rien. C'est des textes qui ont été écrits par des gens qui étaient en position d'autorité et qui ont écrit ces textes pour asseoir leur autorité. Donc, quand on lit un texte religieux, depuis les années 80, surtout quand on vient, n'est-ce pas, des pays des Amériques latines, où on va parler de théologie de libération, et n'est-ce pas, en Occident, où on va développer des méthodes de lecture féministes, qui sont aussi des méthodes de lecture post-coloniale, n'est-ce pas ? On dit, il faut faire toujours attention, quand on lit un texte en général, mais un texte religieux en particulier, il faut aller débusquer les structures de domination et de pouvoir qu'on retrouve dans les textes. Ne l'oublions pas. Aujourd'hui encore, hein, nous sommes quoi ? 6, 7 milliards, nous sommes un peu plus de 7 milliards d'humains. La majorité des humains ne savent ni lire ni écrire. Hein. L'écriture et la lecture sont minoritaires, écoutez bien. Mais même parmi ceux qui savent lire et écrire, c'est aussi une infime minorité qui écrit. En sorte que, vous n'y pensez pas, l'écriture c'est un exercice de privilégié, c'est un exercice d'élite. Et quand il s'agit de textes religieux, les textes religieux sont toujours tissés dans une imbrication, dans un réseau d'autorité et de pouvoir. Donc quand on lit un texte, il faut toujours dire quelle autorité et quelle domination ce texte sert-il à légitimer. Nous avons la Bible entre les mains. Nous sommes chrétiens, nous sommes d'origine haïtienne, québécoise, américaine, et mettez-y encore, et puisque je parle dans un contexte majoritairement haïtien, comment on appelle le Dieu de la Bible ? Je vous entends, la réponse est bonne, Dieu d'Israël. Mais Israël, c'est le nom d'une nation. Donc si c'est le nom d'une nation, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu tribal, parce que Israël a déjà été une petite tribu de rien du tout. Donc le Dieu de la Bible, c'est un Dieu ethnique. Et précisément parce que c'est un Dieu ethnique, vous allez voir que les textes que nous retrouvons dans l'Ancien Testament, 9 fois sur 10, ce sont des textes qui cherchent, écoutez-moi bien, à légitimer la domination, à légitimer le pouvoir d'Israël sur les autres. C'est pas pour rien que je vous ai choisi ce texte-là. Agar, c'est la mère d'Ishmaël. Ishmaël, c'est l'ancêtre des Arabes. Abraham, c'est l'ancêtre des Juifs. Dans ce texte qu'on nous présente comme parole de Dieu, vous notez que la mère des Arabes a été la servante de qui ? De l'ancêtre d'Israël. Donc déjà, on est en train de vous dire, c'est normal, n'est-ce pas, que dans ce réseau de domination, dans ce réseau de pouvoir, que ce soit Israël qui domine les autres, parce que ça a toujours été ainsi. La preuve, c'est que l'ancêtre des Arabes, enfin l'aïeul des Arabes, était la servante de notre ancêtre à nous, juifs. Elle est maltraitée, cette femme. Elle prend la fuite. Si le Dieu d'Israël était le Dieu universel, que ferait-il le Dieu d'Israël? Le Dieu universel, il rétablirait la justice entre les deux. Il aurait dit à l'aïeul des Juifs, ce n'est pas normal que vous ayez demandé à votre mari de coucher avec cette femme, faisant d'elle une mère porteuse, ce qui en soi est immoral. Vous me direz, ouais, mais nous sommes dans un ancien temps, enfin, mais Dieu est censé être au-delà du temps. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, si le Dieu d'Israël était un Dieu de justice et un Dieu universel, il rétablirait la justice entre ces deux femmes. Mais vous notez que le Dieu d'Israël prend position pour l'ancêtre des Juifs. Non seulement définit-elle cette femme par rapport à sa soumission à Sarai, il lui dit « Agar, servante de Sarai », mais il lui dit « Va, retourne et humilie-toi sous la main de Sarai. Tu vas avoir de nombreux enfants, ce qui est le cas aujourd'hui. Il y a de nombreux Arabes. Ils seront comme des ânes sauvages. Bon Dieu. La main de tous sera contre eux et ils seront contre tous. » Ce n'est pas un texte neutre. Ce texte-là cherche à asseoir l'autorité et à asseoir la domination d'Israël sur le peuple arabe et sur les autres peuples. C'est quoi la blague là d'appeler Dieu, Dieu d'Israël? Moi, je ne fais pas ça. C'est quoi la blague? Vous êtes dans une église, vous êtes haïtien, vous êtes que sais-je encore, et puis là, vous évoquez Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Donc vous devez faire ce qu'on appelle une lecture post-coloniale de la Bible. Débusquer dans la Bible toutes les légitimations du pouvoir et de la nomination du peuple, de la domination du peuple d'Israël sur les autres peuples. Là, il s'agit de la domination d'Israël sur une autre ethnie, sur un autre groupe de peuples qu'on appelle les Arabes. Mais dans le Nouveau Testament, Saint Paul se sert des récits bibliques pour asseoir l'autorité de l'homme sur la femme. Je n'aurai pas le temps de lire ce texte-là. 1 Timothée 2, les versets 11 à 15. Dans 1 Timothée 2, les versets 11 à 15, Paul prouve sa misogynie. Il dit à la femme, je ne te permets pas d'enseigner à l'homme ni de prendre autorité sur l'homme. Pourquoi? Parce que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le récit de la création, c'est la femme qui a été séduite par le mâle et qui a séduit par la suite son mari. Donc, vous êtes une séductrice et une proie facilement séduisible. Donc, puisque vous êtes une séductrice et une proie facilement séduisible, je vous condamne à rester inférieur aux hommes. Donc, vous notez qu'un texte religieux n'est jamais un texte neutre. Donc, il faut faire toujours ce qu'on appelle une lecture post-coloniale vis-à-vis de la Bible et essayer de débusquer comment les auteurs, vous dites, ah oui, c'est le Saint-Esprit, laissez le Saint-Esprit loin de cela. D'ailleurs, pourquoi dans la Bible, Dieu est masculin? Pourquoi Dieu ne serait pas femme? Moi, j'ai eu une professeure à l'Université de Montréal. Quand elle parle de Dieu, elle ajoute un E muet. Elle féminise Dieu. Elle a raison. Pourquoi dans le christianisme, la Trinité est faite que d'hommes? Dieu est masculin. Le Saint-Esprit, bon, c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et pourquoi dans la Trinité, on retrouve un fils et non une fille? Pourquoi il n'y aurait pas une fille dans la Trinité? Vous pensez que c'est neutre? Parce que justement, c'est un texte machiste. Dans la Bible, il y a de la misogynie de part en part. La femme doit se soumettre, n'est-ce pas, à l'homme, de même que les autres peuples doivent se soumettre à Israël. Et Israël peut dominer les autres peuples parce que dans les structures de pouvoir et de domination qu'on retrouve dans la Bible, on essaie de légitimer l'autorité d'Israël sur les autres. Faisons attention. C'est pour cela que, désormais, quand je suis en face d'un texte religieux, je dis, oh là là, quel piège on est en train de me tendre là. La semaine dernière, on avait vu que par le texte religieux, on légitimise l'esclavage. Esclaves, soyez soumis à vos maîtres comme au Seigneur. Ici, dans Genèse chapitre 16, on légitimise la domination d'Israël sur les peuples arabes. Parce que l'ange de l'Éternel avait dit à Agar qu'elle doit se soumettre à Sarai et que ses enfants seraient comme des ânes sauvages. En terminant, j'ai une auditrice qui avait partagé avec moi un chant que nous chantons dans nos églises. C'est un chant qui invite les missionnaires occidentaux à aller apporter l'évangile aux autres peuples. Je vais vous lire les paroles de ce cantique et vous me direz si vous n'êtes pas insulté. Ça se trouve dans votre recueil de chants. C'est le numéro 243 de votre recueil de chants. Je vais vous en lire les paroles. Voyez, voyez, les voici, tous les peuples sont ici, c'est la croix qui les attire. Les pécheurs, les malheureux, tous viennent grossir l'empire du Christ qui mourut pour eux. Voyez, voyez, les voici, en foule accourent ici, de leurs cités innombrables, les mystérieux Chinois et les hindous misérables. On oublie de dire que ce sont les occidentaux qui ont rendu les hindous misérables en volant leurs terres et leurs biens. Tous regardent vers la croix. Voyez, voyez, les voici. Lentement s'approche aussi, écoutez bien, l'Africain noir et sauvage, au pied du crucifié, son long et dur esclavage sera bientôt oublié. On nous a fait chanter ça. Voyez, voyez, les voici, lentement s'approche aussi, l'Africain noir et sauvage. Il vient au pied du crucifié, son long et dur esclavage sera bientôt oublié. Donc on se sert de l'évangile pour nous humilier, l'Africain noir et sauvage, mais bientôt son long et dur esclavage sera oublié. Ce que le missionnaire oublie de nous dire, c'est que si nous avons été dans l'esclavage, c'est à cause de lui, parce que c'est l'occidental, le même occidental qui nous a réduits à l'esclavage. C'est encore lui qui nous amène l'évangile et il nous dit, bientôt notre dur esclavage sera oublié. Comme si l'esclavage était venu naturellement. Il oublie de nous dire, c'est lui qui nous a rendus esclaves. Mais ce dur esclavage sera bientôt oublié, comme si l'esclavage va disparaître de lui-même. Non, on a dû se battre pour sortir de l'esclavage. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire une lecture post-coloniale de la religion. Parce que la religion a toujours été un outil de légitimation du pouvoir et de l'autorité. Celui qui écrit le texte religieux ne l'écrit pas pour qu'un autre peuple le domine, il l'écrit pour qu'il continue à dominer les autres. Celui qui m'amène l'évangile ne m'a pas amené l'évangile pour que je me révolte contre lui. Il m'a amené l'évangile pour s'assurer que je reste soumis sous sa domination. Donc on appelle ça une approche post-coloniale des textes religieux. Bon Dieu, que le temps passe vite. Encore une fois, mon but, il est simple. Vous ouvrir les yeux sur ce qu'on vous a toujours présenté comme parole d'évangile, comme parole de Dieu, comme livre sacré. Non, ce sont des outils de domination et de pouvoir des autres. S'il est écrit par un autre, c'est que cet autre-là a voulu te dominer. Et la domination la plus insidieuse, c'est la domination mentale. Et c'est là-dedans que les peuples dits sous-développés, c'est là-dedans que le peuple haïtien se retrouve. Il est dominé et écrasé mentalement par le métarécit d'un autre peuple, des peuples occidentaux et du peuple d'Israël. Voilà, nous parvenons déjà au terme de l'émission. Vous avez entendu notre spot au début de l'émission. Vous allez le réentendre à la fin de l'émission. Eh bien, il y a un lancement qui s'en vient. J'ai écrit au cours de l'année un autre livre qui s'intitule « La Bible n'enseigne pas Satan ». Voilà un autre personnage dont on s'est servi pour nous maintenir dans la peur, pour nous maintenir soumis à nos maîtres. « Ah, mais c'est Satan! S'il se soulève, c'est Satan !» C'est un peuple où Satan domine, etc. La Bible n'enseigne pas Satan, il est déjà en vente, n'est-ce pas, sur mon site www.jeanfilsaimé.com. Il est en vente dans les bonnes librairies, dans les bons commerces haïtiens. Et le lancement aura lieu le dimanche 7 octobre à la Perle Retrouvée. On va avoir une séance de signature et un échange avec vous. Vous savez que j'aime ça. Donc, retirez déjà votre exemplaire au coût de $30 et assurez-vous de le lire et de comprendre à quel point on s'est servi de ce personnage pour nous abrutir, ni plus ni moins. Voilà. Merci d'avoir été à l'écoute. À la mise en onde de Junie Limage, au microphone le pasteur Jean-Fils Aimé. Partagez cette émission avec les autres. Vous avez accès gratis à toutes nos émissions en devenant ami de la page Facebook Lumière sur le Monde CPAM. Si vous voulez une copie dure de l'émission, vous pouvez téléphoner à Junie Limage dans le 514-790-2726. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission du même genre. Et s'il vous plaît, je voudrais que vous soyez moins naïfs vis-à-vis des textes religieux en particulier, en général, mais vis-à-vis des textes bibliques en particulier. C'est des textes qui sont écrits pour légitimer la domination d'un peuple sur d'autres peuples, ou pour légitimer la domination d'un groupe de peuples, les Occidentaux, sur d'autres peuples. Ne soyez pas naïfs, il n'y a pas de Dieu là-dedans, il n'y a pas d'inspiration du Saint-Esprit. Tout cela, ce sont des fabrications, ce sont des construits sociaux qui sont tissés dans des réseaux de domination et de pouvoir. Au revoir.